Voilà, nous achevons juste le passage d'hier. En bas de page, la dernière Mishnah, Mem Aleph Amud Bet, avant de poursuivre sur Daf Mem Bet. Lo yochal imo mina avus shelifne apoalim. On parle de Reuven Shimon, il y en a un qui est mudar ana mechavero, et on nous dit que celui qui est astreint par le vœu, de ne pas profiter donc, ne peut pas manger avec l'autre dans le même avus des poalim. Les ouvriers, on leur donne à manger dans un bac, on va dire, qui est collectif. Et on appelle ça un avus, dit le Ran, parce que comme pour les animaux, on leur met un mangeoir, on met la nourriture pour plusieurs bêtes, mais on met de la nourriture en quantité. Comme ofsin et agamal, c'est une manière de dire on gave. On lui donne à manger en quantité. Mais les ouvriers aussi, comme ils sont très éprouvés, ils travaillent dur, on leur donne en quantité dans ce avus, et il ne faut pas qu'ils partagent et qu'ils mangent ensemble. Parce que si le madir il mange moins, ça profite au moudar, il aura mangé plus. C'est pourquoi ils ne doivent pas manger dans le même. Et là, il n'y a pas l'idée, comme on a vu avec le tamrouya choser. Tamrouya choser, c'est un plat collectif. Et là, on avait dit que dans certains cas, ils peuvent manger dans le même parce que il est choser. On le renvoie au balabait, ça veut dire qu'il y a en trop. Peut-être que là, ici, il y a des chances qu'il n'y ait pas en trop, même si on met beaucoup au départ, parce qu'il mange pour bien travailler. Alors, s'il va en avoir juste, l'un aura mangé moins, ça aura profité à l'autre. C'est un risque. On ne joue pas, ça, c'est assour. Veloya seimo beouman, ba omen, divri rabbi meir. Ba chachamim amrim, ose veu berichuk makom. Faut pas qu'ils travaillent ensemble sur une même omen, c'est-à-dire une rangée de vignes. Il y a des rangées de vignes, et on a l'habitude de bêcher le sol tout au long, des sillons, pour que ce soit plus rentable. Alors, si il y en a un qui a commencé le travail, et il fait un sillon, et l'autre il vient en parallèle à côté, bah, le deuxième profite du travail du premier, parce que la terre elle est déjà plus meuble, et il bêche avec plus de facilité. Et au final, c'est lui qui va être gagnant parce qu'il sera rémunéré pour plus de travail qu'il aura réalisé plus facilement. Et donc, comme il y a un risque de hana, ils ne doivent pas bêcher l'un à côté de l'autre. Si j'ai bien compris, c'est deux sillons parallèles, côte à côte. À côté, ici, ça veut dire en parallèle. Mais s'ils s'éloignent, Chachamim vont dire que c'est permis. Parce que quand tu t'éloignes, la terre, elle n'est pas meuble là où tu pioches. C'est à plusieurs amotes que lui, il a fait son travail le premier pour que le deuxième pioche dans du dur. Il n'y a pas de problème ici. Là, les Chachamim vont permettre. Mais Rabbi Meir, une fois de plus, interdit. Comme on a vu plus haut, et on va le voir tout de suite, c'est précisé. Rabbi Meir, il fait une gzera. Sa démarche, c'est qu'on interdit même le cas où il n'y a pas le problème pour ne pas confondre un cas et l'autre. Voilà pour le sujet. Quelle distance il faut prendre? Certains poskim disent 4 amotes. Certainement, c'est une précaution. C'est vrai que si on s'éloigne déjà un peu plus, pas besoin de 4 amotes pour qu'il n'y ait pas de profit. Mais peut-être c'est une marge de précaution qu'ils ont préconisée. J'aurais ainsi compris ce shiur de 4 amotes. Alors maintenant, la Gemara, qui rouvre l'eau pliée? Dans le dernier sujet, Rabbi Meir Chachamim ne sont pas en marloquette quand ils sont côte à côte. Un, il évolue avec sa bêche à côté de l'autre, c'est-à-dire deux sillons parallèles. Ça, c'est sûr qu'ils sont des assirs, ce sera assur pour tout le monde. Qui pliguaient, quand est-ce qu'ils ont leur marloquette? Berichou, quand il y a éloignement. Rabbi Meir Savar Gazrinan Rachok Mishum Karov. Des caméras Fela Lehara. Quand on est Karov, l'autre a rendu la terre meuble, il m'a facilité la tâche, je suis né, moi le Moudar. C'est assur quand on est Karov. Alors on a fait la Xéra, même le Rachok. Même si je me distance, c'est quand même assour par précaution pour pas confondre un cas et l'autre. Verabanan savrelo gazrinan. Il n'y a pas lieu de faire cette xéra. Les gens s'en tiendront à cette précaution. Il y a un éloignement qui s'impose. Les gens sauront appliquer. Et c'est pourquoi, d'après Rachamim, ce n'est assour que quand réellement il est à côté qui profite. Maintenant, pour le prochain sujet, je vous rappelle. Reuven peut être madir ana'a à Shimon. Je peux dire à Shimon, tout ce que je possède, t'es assour beneder. Comme je peux dire, tout ce que tu possèdes m'est interdit à moi-même. Mais maintenant, Réhouven ne peut pas interdire à Shimon un bien qui ne lui appartient pas. En Adam Oser Davar Shelo Shelo. Je ne peux pas dire à quelqu'un, cette chose-là, qui appartient à un tiers, je te le rends à sourd ou je me le rends. Je me le rends à sourd, oui. Mais je te le rends à sourd, ça ne marche pas. Donc maintenant, on a un sujet qui tourne autour de ces règles. Amodar Anam Echavero Lifnei Shvit. Celui qui a formulé un vœu pour interdire son chaver de tout profit, Lifnei Shvit. Je vais aller avec la lecture, la première lecture que Rashi propose. Lifnei Shvit, ça veut dire il a formulé le vœu avant que n'arrive la septième année en Eretz Israël. Je rappelle la septième année, donc les pérotes sont efker. Et mieux, on peut même rentrer dans un champ pour se servir. Le Baal Asadé ne peut pas dire « Je ferme, ne rentrez pas. Vous voulez les fruits ? Débrouillez-vous, je sais quoi. » Non. La Torah dit « Tu peux manger », ça veut dire « Tu peux aussi rentrer. » Et même prendre le temps de manger dans le champ, dans le verger. Alors, « Amud arna mechavero lifnei shvit » Si le vœu a été fait avant la septième année, « Eno yored et torsa deu venorel minanotot » La personne qui est moudar ne pourra pas rentrer dans le champ du Madir et il ne pourra pas manger même pas des nototes, les fruits qui pendent à l'extérieur du verger. Supposons qu'il y a des arbres qui dépassent et moi je veux prendre les fruits, moi le moudar, même que je ne suis pas rentré dans son domaine, c'est assour. Rentrer c'est assour et prendre les fruits c'est assour. Pourquoi ? Ça veut dire que le neder est en vigueur. Pourtant, le vœu, il a été fait avant le Zman Issour. C'est mieux que ça, avant la Shvit, ça veut dire quand ça m'appartenait, mais après le début de la Shmita, ça ne m'appartient plus. Et là, on est dans un problème que quelqu'un, il a été osser, quelque chose qui ne lui appartient pas à autrui. Si on réalise au moment où la Shmita, elle arrive, les fruits ne sont plus au Baal Asadé, la Torah l'a rendu efker tous tes fruits. Le droit de passage, t'es plus maître sur ça. La Torah l'a rendu efker. Et le neder est contraignant pour le moudar. Mais c'est plus à toi. Comment tu le rends un sourd à l'autre? C'est comme si tu aimais dire quelqu'un d'un bien qui n'est pas le tien. Et quand même, on voit que le neder est adjugé. La Mishnah dit faut s'en tenir. Le moudar ne peut pas rentrer. Et il ne peut pas profiter, prendre des fruits. Alors, c'est ça qu'on apprend dans cette Mishnah. Qu'un homme qui détient un objet, au moment où il formule le vœu, il a le kohar d'être osser ce bien autant de temps, même une fois que ce ne sera plus à lui. Même si une fois ça devient efker, ou si une fois il le vend, il le lègue, n'importe, cet objet, il est déjà empreint du issour, parce qu'au moment où on a fait le vœu, on avait le kohar d'être osser à autrui, c'est devenu assour pour toujours. Bashevit, si par contre le vœu a été fait pendant la shvit, alors dans ce cas-là, il ne peut pas descendre dans le champ, mais il peut manger les fruits. Alors commençons par la fin. Pourquoi il peut manger les fruits? Ça veut dire que le vœu n'est pas en vigueur. Les fruits sont efker et il n'y a pas d'emprise dans tel vœu, puisque au moment où tu as fait le vœu, toi le balassadé, les fruits sont déjà efker. Depuis l'entrée de la Shemitah, ce n'est plus à toi. Donc t'es ma dire quelqu'un d'un bien qui n'est pas à toi. Ça ne marche pas. Donc les vœux sont, les pérotes sont autorisés. Mais par contre, pour rentrer dans le champ, on te dit qu'il ne faut pas. Et là, on verra dans la Gemara qu'il y a une précaution midrabanan de ne pas tolérer qu'il rentre. Normalement, ça devrait être permis puisque, comme je l'ai dit, la Torah te permet à la Shmita de te servir les fruits et même de rentrer et prendre le temps de les manger dans ce champ, ce verger. Et là, on te dit que non, tu ne rentres pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un vœu. Mais alors? Mais le vœu n'a pas d'emprise, ni sur les fruits, ni a priori sur le fait de rentrer et de passer du temps dans ce champ. Ça devait être permis normalement. On verra pourquoi c'est quand même interdit. C'est surtout une xéra des rabbanan. On verra son motif dans le Hamoud Bet. Deuxième partie de la Mishnah. Nadar emenu ma'achal lifnei shvit. Alors que précédemment c'était un vœu de Hana'a. Maintenant, c'est un vœu plus restreint. Le moudar, il est moudar de la part du madir en matière de achila. Tout ce que je possède comme nourriture, t'es interdit. Mais je t'ai pas interdit le profit de tout ce que je possède. Tu n'as pas le droit de manger. Alors, l'ifnei shvit, si le vœu a été fait avant la cheville, qui aurait des torts sadehu, veino chelmina perot, il peut rentrer dans le champ. Circuler dans le champ, ce n'est pas un problème. Et manger les fruits, il ne pourra pas. Parce que comme le vœu il a été fait alors que les fruits appartenaient au Madir, c'est avant la Shemitah, ce n'est pas encore Efker. Il a le koar, une fois de plus, comme on l'a dit dans la Recha, d'être oser ses perot, be'achila, durablement. Même si un jour ils ne sont plus à lui, effectivement, la Shemitah arrive, ils sont Efker, mais ils ont déjà une étiquette de Issour, Mishum, Neder vis-à-vis de cette personne désignée. Par contre, il y aurait de l'étor Sadehu. Descendre dans le champ, il aura le droit. C'est tout simple pourquoi il a le droit de descendre dans le champ. Parce que le Neder n'affecte pas la Hana'a globale. Quand dans la Recha on a dit Mudarana, ça veut dire tu profites pas d'aucune manière, même pas de Drissataregel, fouler du sol, le sol de mon champ, t'avais pas le droit. On a déjà vu que si quelqu'un il est Mudarana Mechavero, même Drissataregel, c'est assour. Simplement circuler, dans, passer à travers la cour ou le champ d'un autre. Mais là, que le Neder, c'est que Achila. Donc rentrer, circuler dans le champ, c'est pas un problème. Tu auras le droit. Mais les perotes, ce sera assour. Parce que tu as fait le vœu avant que la Shemitah n'arrive. Donc, il y a emprise du vœu sur ses fruits, définitivement. Ou Bashvit, par contre, si le vœu est formulé pendant la septième, les fruits sont déjà efker, ils sont plus à toi. Alors, il y aurait de l'ochel. Il peut même descendre et même manger. Rentrer dans le champ, il peut, parce que le vœu n'affecte pas d'autres profits que Achila. Et manger, parce que ben, tu as fait un vœu sur ce qui ne t'appartient pas. Et tu ne peux pas être serf à autrui, ce qui n'est pas à toi. Voilà pour la lecture de la Mishnah. Maintenant, la Gemara présente un débat des Amoraïm qui, pour l'instant, se veut indépendant, mais qui est lié aussi à la Mishnah. Rav et Shmuel d'Amret Arvayou. Rav et Shmuel disent, tous deux, Nechassim, ou plutôt Nechassai Elou. Ça, c'est la version que le Bar nous restitue, Alpi Rashi. Loran, c'est un autre Mahalar, plus complexe. Je vais faciliter avec le Pirouche de Rashi. Donc, Nechassai Elou, mes biens ceci, ça veut dire mes biens de par le monde, où qu'ils se trouvent, Alecha, te sont interdits par un vœu. Voilà. Comme on dit, telle chose est Alaï, c'est pour moi comme Korban. Quand je dis Alecha, c'est pour toi comme Korban, c'est donc Assour. Il a interdit donc de profiter à autrui, à quelqu'un, de ses biens. Et le vœu a été fait. Lifne Ashvit, ignorer les torsadeu ben ochel minanotot. Comme on a vu dans la Mishnah, le vœu a toute son emprise, il est en vigueur. Et bien il ne peut pas profiter ni des perotes, même sans rentrer dans le champ, c'est ça les fruits qui dépassent, qui pendent sur le chemin, et ni rentrer dans le champ de l'autre. Afalpiché Giashvit, et même que la Shvit arrive, non, excusez-moi, j'ai mal traduit. Donc, l'ifne shvit, c'est ça. Afalpiché Giashvit, même si la Shvit arrive, le din est le même. Il reste inchangé, le issour est adjugé, parce qu'au moment où je fais mon vœu, c'était à moi. Je peux te l'interdire pour toujours. Bien qu'à un moment donné, il n'est plus à moi, il restera interdit. Le vœu a déjà pris sur cet objet. Veim bashvit nadar. Par contre, si le vœu a été fait pendant la shvit, alors que les fruits sont plus à moi, ignorer les torsadeu, avalochel mianotot. Il pourra manger les fruits qui sont accessibles de l'extérieur. Parce que ces fruits ne sont plus à moi, je ne peux pas te les interdire. Mais rentrer dans le champ, il n'y a pas de problème. Pardon, rentrer dans le champ, ça c'est sûr que le Neder est en vigueur. Parce que le champ est à lui. Il n'a aucune raison de rentrer dans ce champ. Il lui appartient, il a été au cerf. Je précise. Il y a une précision importante ici pour comprendre. Normalement, on dit que la Shemitah, ça me permet deux choses. De prendre les fruits, mais aussi de rentrer dans le champ sans permission. Je suis chez moi. La Torah m'a permis de me servir. Ça induit, je peux rentrer. J'ai un droit de passage pour me servir et même de manger sur place. Et là, on a dit que dans le dernier cas, quand tu as fait ton vœu pendant la Shvit, donc t'as pas, tu ne peux pas être au cerf ce qui n'est pas à toi. sur autrui. Donc, la achila de perot est permise, mais malgré tout, il ne rentre pas dans ton champ. Pourquoi il ne rentre pas? Alors, il y a, comme on a dit, dans le cas où tu ne peux pas manger les fruits, je comprends que tu ne rentres pas. Mais là, tu peux manger les fruits. Alors, pourquoi tu ne rentres pas? En réalité, ce que tu as comme droit dans mon champ, c'est très limité. Tu peux rentrer pour manger, c'est tout. Mais tu ne peux pas, hein. Tu peux pas te permettre... le champ reste à moi. Ce n'est pas que la Torah l'a rendu efker mon champ. Le champ, il est à moi. Tu as juste un droit de passage. D'accord? Et donc, le droit de passage, je peux te l'interdire par le neder. Et donc... Voilà. Alors, maintenant, dans le cas où tu peux manger les fruits, pourquoi tu ne peux pas rentrer? C'est là où ça fait appel, comme on a dit, à une xéra que la Gemara nous précisera après dans le Hamoud Bet. On verra le motif qui est une xéra des Rabbanan. Donc on a ici Rav Shmuel qui pourrait finalement être parallèle à la Mishnah telle qu'on a lu la Mishnah, ça donne la même chose. On est bien d'accord que nous aussi, quand on a lu la Mishnah, c'est la lecture de Rashi qui donne la même chose, à savoir que si le vœu il est fait avant l'heure du Issoura, avant l'heure de la Shemitah, c'est encore à toi, ce vœu, il roule pour toujours. Il affecte les fruits pour toujours. Par contre, si le vœu a été fait une fois que c'est la Shemitah, ben forcément, c'est plus à toi, tu ne peux pas être au serre à l'autre. Rabbi Yochanan le Resh Lakish t'amre tervayou. Rabbi Yochanan le Resh Lakish se prononce sur ce sujet un peu différemment. Ils disent Nechassai alecha. Alors pour l'instant, la Gemara ne fait pas trop la différence entre Nechassim et Lou. Pardon, excusez-moi. Dans la version que j'ai adoptée, celle de Rashi, plus haut aussi, Rav Shmuel parlait de Nechassai et Lou. C'est le même sujet qui est annoncé chez les deux écoles. Rabbi Yochanan Resh Lakish aussi parle de Nechassai alecha, mes biens te sont interdits par un vœu. Lifnei Shvit, si le vœu, il est... Non, alors maintenant, il ne dit pas vraiment quand le vœu a été fait. Ce qui est déterminant, c'est à quel moment il veut profiter. Lifnei Shvit, enyorel et torsadehu, venochel minanotot. Avant la Shvit, le vœu est parfaitement en vigueur. Pourquoi pas? C'est à moi, je peux t'interdire le profit. Ni tu prends des fruits, ni tu rentres dans mon champ. Il y a Shvit, mais si la Shvit arrive, enyorel et torsadehu, il ne peut plus rentrer dans le champ. Aval ochelou est un notot, mais il peut manger les notot. Pourquoi il peut manger les notot? Parce que le vœu n'a pas d'emprise, a priori, pour un moment où c'est plus mes perotes. C'était mes perotes, le neder était en vigueur. C'est plus mes perotes, le neder s'arrête, tu peux profiter désormais. C'est ce que semble dire Rabbi Yochanan, c'est ce que la Gemara va envisager. Lema bea kamiflegi. Est-ce qu'on va dire que voilà, c'est de ça qu'ils discutent? Rav et Shmuel savraient Adam Oser d'avoir Shivir Shuto. Afilou l'ekshe et Tsemir Shuto. Quelque chose qui est encore à toi aujourd'hui quand tu fais un vœu, tu as la force de le rendre à sourd pour toujours, même pour un moment où ce ne sera plus à toi. Alors qu'une fois que ce n'est plus à toi, tu ne peux pas le rendre à sourd, mais s'il est déjà à sourd préalablement par un neder, le issour du neder se maintient autant de temps que tu veux, définitivement même. C'est ce qu'on voit ici. Ils ont bien dit avec Shmuel, du moment que tu as fait le vœu avant la Shemitah, même que la Shemitah est arrivée, les fruits restent à sourd. Tandis que Rabbi Yochanan Resh Lakish savrait, En Adam Oser Davar Shebirshuto, Likshayetzi Mirshuto. Un homme ne peut pas être Oser quelque chose qui est actuellement à lui, pour après, une fois qu'il y aura un changement de propriétaire, quand ce ne sera plus à lui, eh ben le Neder il saute. Le Issour du Neder s'en va. Tu n'as pas la force d'être Oser durablement que dans la limite de ton appartenance. Parce que tu es Oser parce que ça t'appartient, dans la mesure où ça t'appartient, tu as cette force de le décréter interdit par un vœu. Mais dès que c'est plus à toi, le issour du neder s'en va. Ce serait ça, la marque loquette, vraisemblablement. C'est pourquoi, d'après Rabbi Yochanan Resh Lakish, on regarde, même quand ton vœu a été fait avant, on regarde à quel moment tu vas en profiter. Avant la Shemitah, tu ne peux pas profiter. Pendant la Shemitah, tu pourras. Ah, mais il a fait le vœu avant, et avant, il était en vigueur. Oui, mais arrive la Shemitah, ça s'arrête. Parce que Enadam Oser Davar Shebirshuto, Likshe Yotze Mirshuto. Pour une époque ultérieure, quand ce ne sera plus à lui, il n'a pas d'emprise avec ce vœu. Demande à Gmara et Tisbera, tu crois un instant que ça peut être ça la machloket? Est-ce qu'il existe une telle théorie que non, on ne peut pas? Il n'y a pas une telle svara, il n'y a pas un tel avis, parce que si c'était le cas de Rabbi Yochanan de Resh Lakish, leur sujet, ça devait mieux être, ça aurait été mieux de parler de Nechassim Elou plutôt que de Nechassai. Nechassai, il y a une résonance particulière, mais bien, j'ai souligné l'appartenance. Et ça restreint le vœu possiblement dans le sens que autant qu'ils sont à moi, ils te sont interdits. Et dès qu'ils ne sont plus à moi, ils ne sont plus interdits. Alors que Nechassim Elou, c'est plus indifférent par rapport à l'appartenance. C'est plus neutre. C'est bien là. Or, si c'est la question de la force qu'un homme il a, d'être au serre par un éder, qui lui appartient actuellement, mais qui ne le sera plus un jour à lui, si c'est ça la question, le principe qui serait discuté, alors même dans Nechassim Elou, Rabbi Yochanan et Resh Lakish devaient dire non. Non, la Shemitah arrive, on peut manger les fruits. Le vœu s'envole, il n'y a plus le histoire du Neder. Et pourquoi ils ont parlé de Nechassai? Nechassai, ça s'entend parce que c'est à moi et autant de temps que c'est à moi. Même dans Nechassim Elou. Vekol Sheken ben Nechassai. Et ça induit qu'à force de lui dans Nechassai, le dîner sera le même. Donc quand Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ils ont parlé de Nechassai Elou, c'était mieux de dire Nechassim Elou, Vekol Sheken Nechassai Elou. Que le vœu s'arrêtera dès lors que c'est plus à lui. Donc c'est une première. C'est un premier problème et obstacle. Ça ne nous permettra pas d'admettre que Rabbi Yochanan Resh Lakish, eux, ils pensent que dans le principe, un homme n'a pas cette force. Ce n'est pas une question de force. Deuxièmement, Vetu, voici en plus que Mishnah nous l'enseigne que oui, c'est possible. Tnan, de Adam, Oser, Davar, Shebir Shuto, Lekshet, Shebir Shuto, où on a trouvé dit Tnan, une Mishnah nous dit, Aomer Libno, Konam, Sheatan, Eneli. Konam, c'est Lashon Korban, Lashon Neder. Ce que tu pourrais profiter de tout ce que je possède, t'es interdit par Konam, par un Neder de Konam. Et maintenant, on est d'accord que le fils ne peut plus profiter des biens de son père. Mais après, le père, il meurt. Met, ira chez nous, il pourra hériter son père. Et le Rambam précise, hériter, ça veut dire, bien sûr, même profiter de l'héritage. L'héritage, tu ne peux pas le bloquer. Le Neder n'a aucune emprise sur les lois de succession. C'est indigne de la Torah qu'un père hérite son fils. Ce n'est pas avec un Neder que tu bloques ça. Ce n'est pas la question. Mais quand on dit que c'est Yira chez nous, ça veut dire que c'est un héritage comme d'habitude. Que l'enfant en a l'entière jouissance malgré qu'il y a un vœu. Et pourquoi? Parce que le vœu n'inclut pas les acharmita. Le vœu, c'est que Mechayav. Comme ça, on va le préciser. Tandis que la Mishnah continue, Bechayai uve moti. Si au moment du vœu, le père l'a bien notifié, Konam alecha, tous mes biens, de mon vivant ou après la mort. Il met, si après il meurt, lo ira chez nous, pourra pas l'hériter. Je redis, ça ne bloque pas l'héritage, mais ça veut dire, ce ne sera pas un héritage comme d'habitude, il pourra pas en avoir la jouissance de ses biens. Parce que le vœu, il comprend même pour l'au-delà. Mais l'au-delà, c'est quoi? C'est plus au père. Donc comment il a eu emprise sur un bien qui n'est pas à lui pour l'interdire par un vœu? C'est parce qu'au moment où il a fait le vœu, c'était encore à lui. Il était vivant, ça lui appartenait. Et donc on voit bien dans cette Mishnah qu'un homme, il a cette force d'être au serre, quelque chose qui ne sera plus à lui un jour.
Si c'est pas à lui, s'il ne peut pas en profiter, comment il peut en hériter alors? Pas de père.
Pourquoi pas?
C'est-à-dire quoi, il n'en a pas la jouissance.
Midiné Mamonot, c'est à lui, mais il y a dessus un Isurana.
Il peut le vendre, non, mais ça ne s'appelle pas Anna.
Certainement que si. Je ne sais pas ce qu'il peut faire avec, rien, Mistama.
Non, mais bon, ça va.
Et le Isurana qui affecte la baloute ou le din Mamon d'un objet, ça c'est quand c'est un Isurana pour tout le monde. Mais là, ce n'est pas un Isurana pour tout le monde, c'est juste par rapport à lui. Il est restreint dans l'Anna de l'objet par un Neder. Alors, je ne crois pas que ça affecte sa baloute d'aucune manière. C'est un héritage, mais il n'aura rien, il ne pourra rien en retirer. En tout cas, on voit clairement ce qu'on recherche. Ici, on a une Mishnah qui enseigne clairement que Adam Oser Davar Shebirshuto, Donc Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne pouvaient pas dire le contraire. Donc, l'intention de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est pas, ça ne peut pas être ça comme tu as cru. Menechassim. Te soit interdit, Berna. Arrive la Shemitah, alors tu peux profiter. Non? Si le vœu, il a pris effet avant la Shemitah, eh bien, ça roule même pour après la Shemitah. Parce que ça peut devenir Efker, mais il y a déjà une étiquette de Issour Neder dessus. Ça reste assourd. Donc, Rabbi Yochanan et Resh Lakish n'auraient pas pu être relègues sur Rabbi Shmuel, sur ce point, sur le principe même d'est-ce qu'un homme a la force d'être oser dans ces conditions. Donc ça ne peut pas être un marloka dit la Gemara. Amar, il lui a répondu. Qui c'est qui répond à qui? Je ne sais pas. Puisque dans la Gemara, on n'a pas vu des intervenants qui ont un échange entre eux. Je ne sais pas qui c'est Amarlé. En tout cas, la réponse à ça propose la Gemara. Bechayav. Ah, excusez-moi. Achadeka Amarlé, j'ai mal lu. Achadeka Amarlé. Ici, ça parle que le père, il a dit au fils Bechayav uvmoto. Je veux que le vœu se concrétise, que ce soit de mon vivant ou de ma mort. Et là, comme il l'a bien notifié, c'est pourquoi ça a une emprise même la Harmoto. Ça veut dire qu'on reconnaît que la force, un homme, il a la force. D'être au serf par un éder, quelque chose qui est à lui maintenant, même pour après, quand ce sera plus à lui, j'admets, tu m'as prouvé d'une Mishnah. Donc, Rabbi Yochanan Resh Lakish, je reconnais qu'ils ne sont pas relèques sur ce principe. Tu me l'as prouvé. Mais peut-être que malgré tout, ils sont relèques dans Nechassim Elou. Pardon, ils sont relèques parce que, par rapport à son expression, ayant dit Menechassim, ça veut dire Menechassim, autant de temps qu'ils sont à moi. Mais dès qu'ils ne seront plus à moi, non. Donc c'est mitzvah de la parole de l'homme et la formulation de l'homme que Rabbi Yochanan et Resh Lakish s'interposent vis-à-vis de Rabbi Shmuel. Pas vis-à-vis du kohar qui est donné à l'homme. Le kohar est donné à l'homme, il peut faire ce qu'il veut. Rendre assourd pour toujours, c'est pas la question, tu l'as prouvé, d'accord. Mais est-ce que lui, il a voulu faire ça en disant Nechassa Yelou? Alors ce serait ça la machloket. Dit la Gemara ou Mikol Makom Kashia. Mais quoi qu'il en soit, il y a une question. Ça veut dire quoi, il y a une question, quoi qu'il en soit? Tu viens de répondre à la deuxième. Il y a toujours la première question. Que de dire que la machloket est dans Nechassim, c'est dans Nechassai Elou, parce que vis-à-vis de la formulation spécifique, mais Nechassim, ça s'entend aux oreilles de Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ça résonne comment? Autant qu'ils sont Nechassim. Mais quand ils ne seront plus, alors je n'ai pas inclus ça dans le vœu. C'est l'homme qui a mis une limitation dans le vœu. Alors qu'il a la... Il a la possibilité de mettre aucune limite et ça reste assourd pour toujours, comme on l'a prouvé. Mais il aurait mis ici une limitation parce que c'est comme ça que ça résonne et Chassa Yelou. Mais dans ce cas-là, Mikol Makom Kashia, c'est qu'ils auraient dû discuter dans Nechassim et Kol Sheken dans Nechassai. Ce qu'on avait demandé en premier. Niflo Benechassim Elou. Et effectivement, à ce moment-là, Nechassai Kol Sheken. Parce que Nechassim, c'est plus neutre. Ça fait moins résonner l'appartenance. Nechassai, c'est plus entendu autant qu'ils sont à moi. Alors pourquoi ils ont parlé que de Nechassai? Ils auraient dû dire même dans Nechassim. Et a fortiori, Nechassai. Et là, Binechassim et Lukul Alma l'obligé. Faut supposer que non, leur marloquette, elle est spécifique à Nechassai. Elle n'est pas dans Nechassim. C'est pourquoi ils ne l'ont pas mentionné. Parce que dans Nechassim Elou, ils seraient d'accord. Kul alma l'obligé que, un, tu as la force d'être au serf, même quand ce ne sera plus à toi, et que c'est ce que tu entends faire. Puisque tu n'as pas fait allusion à l'appartenance autant que c'est à moi. En disant Nechassim, à moi ou pas, peu importe. Mes biens te sont interdits par un vœu. Alors, limité, ni c'est limité d'emblée par le din. Le din te donne la possibilité d'être au serf durablement, ni tu l'as toi-même limité par l'expression, la formulation que tu auras choisie. Par contre, quand tu auras dit Nechassai, c'est là où c'est discutable. Qui pligé ben Nechassai? Rav et Shmuel savraient l'oshna Nechassim Elou, l'oshna Nechassai? L'une formule ou l'autre, Adam au serf un homme, il est oser. Même quand tu dis Nechassai, tu as été oser durablement. Ça veut dire, ça n'a pas nécessairement cette connotation autant qu'ils sont à moi. Parce que quand tu as dit Menechassim, ça veut dire tous ces Nechassim-là, qu'ils soient ici, plus loin, ailleurs, tous ces Nechassim que je possède aujourd'hui, pas l'Avdavka parce que c'est à moi aujourd'hui et pas plus tard. Et sans rapport avec l'appartenance, mais dans le sens que tout ce que je détiens, là où que ça se trouve, je les ai inclus dans le Neder. Maintenant, appartenance ou pas, ça ne change pas. Ça restera sourd même après que ce ne sera plus à moi. Tandis que Rabbi Yochanan de Resh Lakish, il pense que Nechassim Adam Oser, Nechassai en Adam Oser. C'est une question de formule. Quand tu dis Nechassim, tu n'as pas fait référence à ton appartenance. C'est neutre. Alors, puisque Mitzad le din, t'es pas limité, tu as cette force d'être oser durablement, ça devient sourd durablement. Tu ne l'as pas restreint non plus par ta formule particulière. Par contre, quand tu as dit Nechassai Elou, Nechassai, ça s'entend les miens. Les biens, les miens, dans la mesure où ils sont, et autant qu'ils sont à moi. Mais dès qu'ils ne seront plus à moi, j'ai rien dit. Donc ça redeviendra permis. Donc c'est qu'une question de interprétation. Comment entendre cette formule? Quelle est la date, Bnei Adam, quand ils disent telle ou telle expression? Donc au final, on a rapproché de beaucoup Rabbi Yochanan de Resh Lakish par rapport à Rav Shmuel. Sur le principe qu'un homme il a ce pouvoir, tout le monde est d'accord. Et dans Nechassim Elou, il n'y a pas de machloket. Ça aussi. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan de Resh Lakish n'ont pas parlé de Nechassim Elou. Parce que sur ce dossier, ils sont d'accord qu'on n'a pas fait allusion à l'appartenance personnelle. Le lien n'est, le déder n'est pas lié au fait que ça m'appartienne. Comme quoi, je veux te l'interdire même quand ce ne sera plus à moi. Ça marche? La marque loquette, c'est dans Nechassai. Comment il faut le traduire? Demande la Gemara. Umika le mandamar. Lochtan Nechassim Elou, Lochtan Nechassai. Est-ce qu'il y a une telle chita, à savoir Rabbi Yochanan Resh Lakish, qui ne font pas la différence et qui disent que. Pardon, donc Rav Shmuel, qui disent que même dans Nechassai, je vais interdire durablement. J'aurai interdit durablement. Ça veut dire. Je ne tiens pas compte de l'appartenance du bien. Ce n'est pas parce qu'il m'appartient que ça t'est interdit. C'est interdit même quand ce ne sera plus à moi. Je n'ai pas restreint moi-même en disant Nechassai. Ve'atnan. Et pourtant, une Mishnah semble dire le contraire. Aomer la chavero konam le tor betecha shani nirtnas. Quelqu'un, il dit, je fais un lachon konam, c'est-à-dire neder, de m'interdire la hana'a de ta maison. Je ne peux plus rentrer dans ta maison. Alors là, ce n'est pas Réhouven qui osera Shimon sa propre maison. C'est Shimon qui s'interdit de rentrer dans la maison de Réhouven. Mais ça ne change rien. C'est toujours. C'est l'équivalent. Je peux être osser à l'autre ce qui m'appartient ou lui peut s'interdire ce qui m'appartient. Donc là, c'est le deuxième cas. Donc, par un issur neder, je m'interdis de rentrer dans ta maison, shani nirtnas, ou bien sadecha shani lokear, ou bien je m'interdis de ton champ d'en profiter. Met oshe mecharo leacher mutar. Si le propriétaire est mort ou qu'il l'a vendu, en d'autres termes, c'est plus au propriétaire, le neder est levé. Ça devient permis. Mais par contre, si quand il a dit le vœu, j'ai dit il est baïtzé. Je fais un konam de ne pas rentrer dans cette maison. Sous-entendu qu'il y a toi aujourd'hui, mais j'ai dit cette maison sans faire référence à l'appartenance à qui ça appartient aujourd'hui. Shani nirtna, est-ce que je ne rentre pas dedans? Ou bien ça désou shani lokear. Met oshe mecharo, si le propriétaire il est mort ou qu'il l'a vendu, à un autre, c'est assour. Pourquoi c'est assour? Parce qu'il n'a pas mis de limite. Tandis que dans le premier cas, il a mis une limite. Il a dit ton baït. Ton baït, c'est autant qu'il t'appartient, je me l'interdis. Je ne me suis pas interdit le profit d'un objet. C'est d'un objet qui t'appartient. Autant qu'il t'appartient. Alors, de la même manière que quand c'est le moudar qui a lui-même été madir et atzmo de la maison d'un autre, eh bien, en disant betecha, ça s'entend littéralement autant que c'est ta maison. Mais dès lors que ce ne sera plus ta maison, il n'y a pas de vœu. Bah, la même chose si c'est le Madir qui est Madir et Travero de sa propre maison. Si Reuven, il interdit à Shimon son bien à lui, ou son champ, ou ses perrottes, etc., ou une ana globale de tout ce qu'il possède, alors ce sera, oui, à prendre en compte qu'il a dit « Menechassim, Nechassai ou Beiti » dans un sens, « Betecha ou Nechassecha » dans l'autre sens. Mais ça ne change rien qui est celui qui formule le vœu. Et donc, de la même manière qu'on voit dans la Mishnah, que quand le Moudar, qui a lui-même fait le vœu sur lui-même, sur sa personne, « Betecha », ça veut dire autant que c'est ta maison, ben, la même chose si c'était l'autre, le Balabaït, qui avait fait ce neder contre le Moudar, il avait dit « Beti, ma maison, ben, c'est Beti autant qu'elle est à moi. Dès qu'elle n'est plus à moi, c'est permis. Idem pour Nechassai. » Donc, comme on a une machloket amoraim sur Nechassai, est-ce qu'il voulait limiter ou non? Mais là, on voit clairement dans la Mishnah que quand il dit « Betecha », c'est restrictif. Et donc, quand je dis « Konam Beti Alecha » ou « Konam Nechassai Alecha », c'est restrictif. On ne peut plus discuter sur ça, c'est une Mishnah. Donc, Rabbi Yochanan Reish Lakish, ils ont raison, on ne comprend pas Rabbi Shmuel. Réponse, « Et là, qui aimerait Rabbi Yochanan Reish Lakish ?» Benechassai. Verav Shmuel, Benechassim Elou. Velopligé. La conclusion finale, c'est que chaque école parlait d'un autre sujet. Rabbi Yochanan Reish Lakish, j'ai parlé de Nechassai. Ah, Nechassai, bien sûr que ça a cette connotation autant que c'est à moi. Arrive la Shemitah, le Issour s'arrête, même que c'était en vigueur avant. J'ai fait le vœu avant la Shemitah. Et le vœu, pour sa part, il a un pouvoir illimité. Même pour l'au-delà, même quand ce ne sera plus à moi. Mais moi, j'ai limité. J'ai fait corrélation entre le bien et le fait que c'est mon bien. Pas Stam, l'objet. L'objet qui est à moi, c'est interdit autant qu'il est à moi. Mais dans le cas où j'ai dit Nechassim, je n'ai pas fait allusion à l'appartenance. Parce que c'est à moi, ça t'est interdit. Autant que c'est à moi, ça t'est interdit. Pas du tout. Ce bien, cet objet. Ou Baïdze, dans les termes de la Mishnah qu'on vient de citer. Baïdze, cet objet, t'es interdit, eh ben autant de, eh ben il y a pas de limite. C'est pas lié avec l'appartenance. Même quand ce sera plus à moi, et dès lors que le neder a pris effet, c'est pour toujours. Et donc chaque école parlait d'un autre sujet, et c'est pourquoi il y a pas de machloket, si bien que les deux points, on les trouve dans des Mishnayot. D'une part, on a trouvé dans une Mishnah cette indication qu'un homme, il a cette force, cette resserre avec l'histoire de l'héritage. Il n'y a pas de limite. Du moment que ça a été pris, le vœu a pris, c'est pour toujours. Ce que tu ne peux pas, c'est faire un vœu une fois que ce n'est plus à toi. Iggy Ashvit, tu ne peux plus faire le vœu, ça, le vœu n'a pas d'emprise. Mais si ça a pris, ça prend pour toujours, il y a cette force. Après, tu veux pas, c'est ton affaire. Tu peux, toi, restreindre la portée du vœu. Tu peux dire, ce vœu, je le fais autant que c'est à moi. Cet objet te sera assourd, mes biens te seront assourds, Beiti ou Nechassai, autant qu'ils soient à moi. Et dès que tu as dit Beiti ou Nechassai, c'est comme ça qu'on l'entend. Et il n'y a pas de machloket sur ça. Comme dans le cas où c'est le Moudar qui formule le vœu en disant, Betecha, ta maison, c'est tant qu'elle est à toi. Donc si je dis, ma maison t'est interdite, c'est tant qu'elle est à moi. Mais Nechassim tout court, ou Beit tout court, là, c'est assour durablement. Ou bashvit, ignorait les torsadeu. Donc la Mishnah disait, en la fin de la première partie, que la septième, pendant la Shemitah, si le vœu a été... Donc d'après ça, la lecture qu'on a adoptée dans la Mishnah, elle est universelle, il n'y a qu'une seule lecture, que ce soit Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan Reish Lakish ou Rabbi Shmuel, ce que la Mishnah est en train de dire, tu as fait ton vœu à... avant la Shemitah. Alors, donc c'est-à-dire que je lis dans la Mishnah, Moudar Adam Ravero, Lifne Ashvit. Lifne Ashvit, c'est le moment où tu as fait ton vœu. C'est pas on te dit le din, alors avant la Shvit, c'est assour. Non, c'est le cas. Tu as fait ton vœu avant la Shvit. Alors il est contraignant ce vœu, même pendant la Shvit. Mais Uba Shvit, si tu as fait ton vœu pendant la Shvit, là il n'est pas contraignant pour les pérotes. Puisque ce ne sont pas tes perrottes, tu ne peux pas les interdire. Et donc, c'est moutard. Mais, ils ne rentrent pas dans le champ. Pourquoi ils ne rentrent pas dans le champ? C'est ce qu'on va demander tout de suite. Maïchna de ochel minanotot de pire defkera inun. Quelle est la raison pourquoi les perrottes qui sont notot, qui dépassent en dehors, que tu veux prendre en passant sur le chemin qui longe le champ, par exemple, c'est parce que les fruits eux-mêmes sont efker. Et donc, il ne peut pas te les interdire. Le vœu ne peut pas te les interdire. Ils ne sont plus à lui. Inoun, c'est ça, les pirées d'Efkera Inoun. Aranami Efkera. Mais la terre aussi, Hachem l'a rendue Efker. Ça veut dire que tu as un droit de passage pour venir te servir. Alors pourquoi tu ne vas pas rentrer prendre les fruits en circulant dans le champ? Il ne peut pas te l'interdire, ce profit, par un éder. Dans la mesure où la Torah l'a rendu Efker, ce droit de passage, tu n'as pas besoin de le payer, ce droit de passage, il est Efker, c'est donné à tout le monde de rentrer, de circuler. Avec un vœu, je ne peux pas t'interdire cet anna. C'est comme quelque chose qui n'est pas à moi, que je ne peux pas interdire à autrui. Donc ça devrait être permis de circuler. Amaroula, Beomdin, il anote à la Gvoulim. On parle d'arbres qui se tiennent sur la limite. Et donc, tu as accès aux fruits sans rentrer. Et c'est pourquoi tu n'as pas le droit de rentrer. La Torah t'a dit tu peux rentrer parce que autrement tu ne peux pas accéder aux fruits. Alors rentre. Mais si tu peux te servir sans rentrer, prends sans rentrer. D'accord ? Comment ?
Si c'est FK, c'est FK. Quoi, même si tu peux prendre sans rentrer?
Non, je redis. En réalité, c'est pas que le champ est efker. C'est que la Torah, elle voulait permettre les fruits. Et alors, si c'est indispensable de rentrer pour prendre des fruits, alors ça devient permis. Mais ça ne veut pas dire que je peux pas. Que l'objet du champ ne m'appartient pas pendant la Shemitah. L'objet du champ m'appartient. Tu as juste un droit de passage. D'accord ? Maintenant, si ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que les fruits, tu y accèdes de l'extérieur.
Un droit d'accès aux fruits.
Donc, il ne faut pas rentrer.
Frère, je peux aller monter ma tente. Et comme ça, toujours, je mange des fruits. Je ne monte pas ta tente, c'est chez moi.
La terre, elle n'est pas FK. Enfin, elle est pas...
C'est ça. Non, mais le champ, il est à moi. Tu fais pas ce que tu veux sur mon champ. Je te laisse y aller pour aller prendre des fruits. Mais
Donc, c'est comme si tu rentres pour... On va dire que dans cette situation précise, c'est comme si tu rentres dans le champ pour le plaisir. Tu rentres pour autre chose. Ce n'est pas pour les fruits, puisque les fruits, tu les as direct, sans rentrer. Et donc là... Là, ce serait assour. Mais là, le problème, c'est que c'est assour, mitzad à neder, d'accord ? Je ne sais pas si on peut dire que quelqu'un qui n'est pas frappé par un neder ne peut pas rentrer tant qu'il y a des fruits accessibles de l'extérieur. Non, la Torah l'a dit, tu peux prendre ce fruit ou ce fruit. Disons que le fruit qui est à l'intérieur, il est plus exposé au soleil, il est plus mûr, tu veux celui-là ? Tu veux rentrer, pourquoi il va t'interdire ? Je veux ce fruit, je prends ce fruit. Ou même s'il n'est pas plus mûr, la Torah m'a permis sans différence, je peux prendre un fruit ou un autre. Donc je peux prendre celui qui est de l'extérieur ou de l'intérieur, il n'y a pas de problème. Mais lui, comme il est interdit par un neder, alors le neder fait qu'il ne pourra pas rentrer là où il pouvait s'en passer.
On parle d'un neder bashvit.
Comment ?
On parle d'un neder bashvit. Pendant la shvit.
Oui, oui. Mais ce droit de passage, c'est
ce
comme
neder,
si
il a pas,
ce
il a
droit
pas
de passage,
sur...
c'est une ana'a. Sur laquelle le balassadé, il a moyen d'être osser. Il peut être osser parce que je ne prive pas l'autre de ses droits. Ses droits basiques, c'est quoi ? C'est qu'il est des pérotes. Il peut se les avoir sans rentrer chez moi. J'ai emprise sur ce droit de passage par un vœu. Si c'était un droit, que autrement, il ne peut pas avoir ses pérotes. Bon, alors la Torah a dit tu peux avoir des pérotes, donc tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Comme je ne peux pas t'interdire les pérotes, je ne peux pas t'interdire. Le droit de passage, c'est comme si c'est quelque chose qui ne m'appartient plus. Je ne suis plus maître de ça pour te l'interdire par un vœu. Mais comme on peut s'en passer en prenant les fruits de l'extérieur, alors sur ça, Kaniré, il peut lui interdire par un vœu. Maintenant, est-ce qu'il peut interdire à toute personne sans vœu ? Je ne sais pas. Revenons donc. Ça, c'est la première explication, celle de Oula. Mais il y a un autre Chacham qui intervient, Rabbi Shimon ben Eliakim Amar, Gezera Shema Yisheba Amida. C'est une Gezera de peur qu'il s'attarde là-bas, debout dans le champ. Ça veut dire, s'il rentre pour le strict nécessaire pour pouvoir manger des fruits, c'est une chose, ça la Torah, elle a autorisé, donc lui, il ne peut pas interdire Ben Eder. Et donc, autant il a le droit de prendre les fruits, autant il aura le droit de rentrer pour prendre et manger ses fruits. Mais si la Mishnah dit que c'est assour de rentrer, c'est par Gzera de peur qu'il s'attarde davantage. Et le sur plus de temps qui passe là-bas, ça s'appelle Drissat Regel Asura. Et l'Asura Ben Eder, c'est Drissat Regel. La Torah, elle t'a pas empêché d'interdire quelqu'un de rentrer dans ton champ pendant la Shemitah pour prendre du bon temps là-bas. Elle a dit, il peut prendre. Elle a jamais parlé, la Torah, de ouvrir son champ pour que les gens circulent librement. C'est pas ça ce qui est écrit. C'est écrit de rendre efker la production, c'est une chose. Mais ça induit que l'autre peut profiter en circulant pour se servir ou même manger. Mais plus, je suis le maître des lieux, ça m'appartient, et donc je peux aussi, par le néder, interdire à toute personne de passer du temps ici. Alors si pour le fruit, il veut s'accorder 5 minutes, ok ? Et s'il reste 5 minutes en plus, là c'est déjà assourd. C'est pourquoi hein, la Mishnah aura interdit, d'après lui, même quand les fruits ne sont pas accessibles de l'extérieur. Alors je comprends dans Rashi qu'il est d'accord avec Oula sur la lecture de la Mishnah que les fruits sont accessibles de l'extérieur parce qu'on a bien parlé de notot. Notot, c'est des fruits qui penchent, les branches qui dépassent, et tu peux, alors tu prends ces fruits. Et donc tu rentreras pas, tu peux t'en passer. Ça, c'est le Ikar Adin. D'accord ? Mais maintenant, si les fruits ne sont pas accessibles de l'extérieur, j'aurai le droit de rentrer normalement. Eh bien, lui, il vient dire, pas comme Oula, Gzera des Rabbanan, que tu rentreras pas. Pourquoi les Rabbanan ont fait une Gzera ? De peur qu'en allant pour le strict nécessaire, les 5 minutes nécessaires pour manger, tu t'oublies là-bas. Et là, tu auras fait les sourds de Drissata Regel dans un champ qui t'est interdit, Biana. Et donc, c'est pour ça que tu rentres pas du tout. Ah, tu n'auras pas de fruits. Pourtant, tu as le droit de prendre des fruits. Tu n'auras pas les fruits. Ben, tu n'auras pas les fruits. C'est une Gzera. Sur le fruit, il n'y a pas de Gzera. Il n'y a rien à craindre. Les fruits sont tous permis. Mais sur le temps que tu passes là-bas, il y a à craindre que tu débordes un peu plus que le minimum nécessaire. Là, on est obligé de faire une xéra. Donc, on l'interdit. Donc, au final, tu ne prends les fruits que s'ils sont accessibles de l'extérieur. Tandis que d'après Oula, il n'y a pas cette xéra. La Mishnah a parlé, quand ils sont accessibles de l'extérieur, tu les prends que de l'extérieur. Mais si un jour, ils étaient que accessibles de l'intérieur, ben, tu aurais le droit de rentrer pour les prendre. Voilà pour cette souveraine.